Hop là, du coup on y va. La France périphérique, un an après, un mythe au pied d'argile, par Aurélien Delpirou et Achille Warnant. En 10 ans, le consultant en géographie Christophe Guilly a acquis une forte notoriété et réussi à imposer des formules choc dans le débat public, à l'instar de sa fameuse France périphérique. Déjà voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça vient d'ici. Enfin, ça vient de ce gars-là, moi je ne savais même pas que ça venait de lui. Si les critiques sérieuses n'ont pas attendu si longtemps pour déconstruire et réfuter cette doxa médiatique, le mouvement des Gilets jaunes est venu lui porter le coup de grâce. Il serait temps d'en prendre acte. Ok, en vrai, je pense que l'article va être grave intéressant. Un an après l'explosion du mouvement des Gilets jaunes, qu'il aurait prophétisé, le géographe et essayiste Christophe Guilly est considéré comme l'un des plus fins observateurs des recompositions sociales et territoriales à l'œuvre dans la France contemporaine. Théoricien au début des années 2000, du concept de France de périphérique, il se présente volontiers comme le porte-voix des territoires éloignés des métropoles, décrit comme étant relégué spatialement et socialement. Mobilisé par des responsables politiques de toute obédience et largement relayé par les médias et les réseaux sociaux, ses idées se sont progressivement imposées dans le débat public, comme en témoigne l'usage désormais banalisé de la notion de France périphérique. Mais c'est vrai que moi, le mot France périphérique, c'est quelque chose que j'entends en mode. J'ai l'impression d'avoir toujours entendu ça, quoi. Comment ça, tu n'expliques pas ce que tu ne connais pas, tu ne fais pas d'efforts? Bah oui, malheureusement. Ce succès politico-médiatique est d'autant plus remarquable que Guilly s'estime ostracisé par des milieux académiques et victime du politiquement correct. Un avis que partage son confrère Laurent Chalard, qui lui a consacré un long article hagiographique en 2017 dans la revue Outre-Terre. Si vous souhaitez vous faire des amis au sein de la petite communauté de géographes français, il est vivement conseillé de ne pas aborder avec ses membres la question la plus célèbre, du plus célèbre de ses représentants vivants, Christophe Guilly, Irène Steele. Ouais, ça fait ouin-ouin pour le moment, mais on va voir, on va voir. Coupable de ne pas être issu du sérail, pardon, et d'avoir volé la vedette au mandarin d'une communauté réputée pour sa fermeture et son entre-soi, Christophe Guilly ferait l'objet de critiques irrationnelles de la part des chercheurs. Oula, il est bizarre le mec, comment il écrit là? Chelou. Comment expliquer ce décalage inédit par son ampleur dans le champ des sciences sociales francophones? Comment interpréter le succès des thèses de Guy malgré les controverses qu'elles ont suscitées? En gros, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est un mec qui est complètement ostracisé du milieu. Enfin, ostracisé, entre guillemets, qui a l'air d'être ostracisé dans le milieu universitaire. Mais par contre, sa vision politique, sa vision du monde, entre guillemets, elle a réussi à intégrer les trucs politiques et médiatiques. Et en vrai, ça, c'est assez intéressant comme dissension. Afin d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions, cet article étend s'éloigner des polémiques en reconstruisant de manière factuelle le parcours éditorial du géographe, puis en présentant de manière aussi rationnelle que possible les principales critiques adressées à la notion de France périphérique, sans entrer dans la dimension politico-idéologique et ethno-culturelle du débat. Nous terminerons en montrant en quoi la crise des Gilets jaunes a signé dans le même temps l'apogée et le dépassement de cette notion. En vrai, c'est bien, on va vraiment tout comprendre. Du coup, c'est cool ça. Perso, je suis pro-Guy. Ouais, bah en vrai, ça m'étonne pas, Caméléon. Désolé, mais ça m'étonne vraiment pas. Zemmour l'adore parce qu'il dit que les petits blancs de la France périphérique sont bien plus à plaindre que la racaille des banlieues, enfin racaille entre guillemets, qui sont connectés aux grandes métropoles. Ah, ok. Ouais, ça va être intéressant. En gros, c'est un peu une critique class first et. Ok, donc j'ai l'impression, enfin, je pense un peu voir le bordel. Ça sent le Jean-Michel censuré tout le temps qui passe son temps sur CNews. Ouais, c'est possible ça. On va voir, de toute façon, on va découvrir tout ça. La bonne fortune médiatique d'un géographe hors circuit. Né en octobre 64 à Montreuil, Christophe Guilly grandit à Paris où il suit, dans les années 80, un cursus de géographie à l'université. Dans son mémoire de maîtrise, en 87, il s'intéresse aux conséquences des politiques de ré rénovation urbaine sur les quartiers populaires de Paris. Encadré par deux géographes proches du Parti communiste, Jean-Philippe Daimé et Michel Grosse, ce travail est l'un des premiers à mettre en lumière l'embourgeoisement de l'Est parisien. Faute d'avoir obtenu une bourse de thèse, Guilly devient d'abord pigiste, puis différents médias avant de se retourner vers le Conseil aux collectivités locales en 89. Cette reconversion est dans un premier temps difficile. Ses clients, pour l'essentiel des municipalités gérées par des élus communistes, se raréfient avec l'effondrement du parti. Ok, donc c'est intéressant. Donc c'est un mec qui est plutôt gauchiste. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment un mec qui a l'air vraiment en mode de full class first, de ce que je comprends. Enfin, en tout cas, de son histoire personnelle. On va voir la suite, hein, mais. Les auteurs récupérés par les deux, ça existe. Oui, bien sûr, bah, on connaît bah, Nietzsche. Hein. Faut pas, rien que tu sais, tu penses à Nietzsche, du coup, enfin, c'est pas parce qu'un auteur est forcément récupéré qu'il est forcément d'extrême droite. Hein. Mais bon, on va voir de toute façon. Faut faire gaffe avec les penseurs hors système dont les notions sont reprises dans les médias, en effet, peut-être qu'il n'est pas donné, mais l'intro de l'article n'apprend rien. Oui, on va voir, on va voir. Hein. C'est un peu un rouge-brun, ou en tout cas, quand un don des thèses peut être récupéré par ce courant. Oui, voilà ça, etc. C'est ce que j'ai hâte de comprendre. En 95, le géographe crée un bureau d'études, MAPS, qui se spécialise dans l'appui à la rénovation des quartiers de grands ensembles. Dans le cadre de cette activité, il s'engage en faveur de la politique de la ville et prend des positions qui le situent alors à la gauche de la gauche. Ok, donc il est en mode plutôt extrême gauche, intéressant ça. Donc très social, je suppose. Cette même année, l'élection présidentielle est marquée par le discours de Marcel Gauchet et Emmanuel Todd sur la fracture sociale opposant la France d'en haut à celle d'en bas. Guilly est sensible et débute, à la fin des années 90, l'écriture de son premier essai, L'Atlas des fractures françaises, qui paraît en 2000 aux éditions Lamartane. Il est beaucoup aimé par Emmanuel Todd. Ah tiens, c'est précis ça. L'ouvrage s'attache à montrer les effets inégalitaires de la métropolisation sur les territoires de toutes les échelles. Cette analyse le conduit à évoquer, par opposition aux métropoles, qui concentrent l'essentiel du progrès économique et des richesses, des territoires périphériques constitués à la fois des zones industrielles au tissu productif fragile et de zones à dominante rurale et tertiaire. Oh, attendez, je vais relire parce que j'ai pas tout compris. Donc cette analyse conduit à évoquer, par opposition aux métropoles qui concentrent l'essentiel du progrès économique et des richesses, donc il est en mode les villes c'est là où il y a le plus de richesses, aux territoires dits périphériques constitués à la fois de zones industrielles au tissu productif fragile, donc on va dire les prolos qui font de la manutention, de l'usine, etc., donc qui subissent tout, donc les trucs toxiques et qui sont très prolétaires, quoi, et de la zone de domination rurale et tertiaire. Et après, tout ce qui est, on va dire, paysan, etc. Ok. Donc ça, c'est la fracture de zone des métropoles et zone des périphériques. Si le succès éditorial n'est pas au rendez-vous, le livre permet à Guilly d'ordonner ses idées et d'acquérir une certaine légitimité pour intervenir dans le débat public. En 2001, quelques mois avant les élections municipales, Libération lui ouvre ses colonnes. Dans une tribune intitulée « Municipal, les bobos vont faire mal ». Le géographe explique que la gauche est susceptible de remporter la ville de Paris grâce à l'apparition d'une nouvelle bourgeoisie bohème qui opère une ghettoisation par le haut de la capitale. En gros, si je dis pas de bêtises, c'est la gentrification, quoi. En mode, ils gentrifient le... Ouais, c'est pas vraiment gentrification, mais en gros, c'est gentrification pour la gauche, quoi. Ok, c'est intéressant, ça. Le concept de bobo, repris au journaliste américain David Brooks, permet au texte d'être remarqué. Guilly signe une nouvelle tribune dans la Libération l'année suivante, intitulée « Arlette et Le Pen, incarnation du peuple ». Oula ! Ok. Alors là, déjà, frérot, ça commence à coincer. Il explique que ces deux figures politiques sont les candidats naturels des catégories populaires, mais aussi que, paradoxalement, les discours des deux mouvements, loin de s'opposer, se complètent en couvrant un large spectre des causes de l'exaspération sociale. Ah ouais, donc c'est vraiment le discours en mode... un peu les deux extrêmes peuvent se rejoindre sur des discours communs, nanana. Oh vas-y, putain, j'avais prévu, oui. Ah, c'est vraiment le discours de dire... Les extrêmes se rejoignent, regardez, en vrai, l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est la même chose, regardez, il faut que Marine Le Pen elle s'allie avec je sais pas qui là, à gauche, pour qu'on puisse s'unir et compagnie. C'est ce qu'a fait, je crois que Branco, il a proposé la même chose, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est un rouge-brun, a priori, ça va être un mec de gauche au début de sa vie, et en 2001, il a un peu vrillé, quoi. Pour la première fois, l'auteur parle explicitement de la France périphérique. Cette terra incognita des fameuses élites gestionnaires. Oula, ou quoi ? Wow. Wow, les termes qu'il utilise et les termes utilisés, c'est très. Désolé, mais ça fait très complotiste, quoi. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais ça fait connotance complotiste. Je dis pas que c'est ce qu'il veut. Je dis pas que c'est ce qu'il exprime forcément, mais ce que je ressens, c'est ça. La notion est définie en 2003 de manière très large dans une tribune publiée elle aussi dans Libération. Il s'agit de la France des régions industrielles, des espaces ruraux, des quartiers de logements sociaux et des zones de lotissement pavillonnaire bas de gamme. Ouais, mais ça veut tout et rien dire, quoi. Alors, déjà, rien que sa définition, elle est pas très précise. Ces idées sont développées et précisées dans l'Atlas des nouvelles fractures sociales en France, rédigé avec le géographe Christophe Noyer. Les auteurs identifiant une double dynamique d'embourgeoisement, les centres urbains et de décrochage de la France périphérique. Ok, bon, ça, je suis un peu d'accord que globalement, il y a. Enfin, ça, on peut l'observer, qu'il y a globalement une embourgeoisement dans les centres urbains, même si, attention, il y a quand même des. En fait, t'as des centres urbains très au centre qui sont plutôt bourgeoisie et qui vont s'embourgeoiser. Mais par contre, la périphérie autour de ces centres urbains, eux, par contre, vont devenir de plus en plus pauvres. Et est-ce qu'ils les considèrent comme périphériques ou pas? Et ça, j'ai pas l'impression du coup. Parce qu'ici, il met logement social, mais ouais, je sais pas. On verra. Celle-ci est désormais définie à l'aide de plusieurs cartes et graphiques dans une perspective plus sociologique, comme celle de ouvriers ruraux, des petits paysans, des employés de lotissements pavillonnaires, bas de gamme et des chômeurs de banlieue. Donc il parle bien des chômeurs de banlieue. Donc du coup, il évoque aussi ce qui est le côté en dehors du côté périphérique. Le tableau des lignes de fracture du territoire français est encore complexe et nuancé. Bon, déjà, il commence à mieux expliquer son truc. En gros, ça va être oui, ok, les banlieues, mais les blancs aussi, ouin ouin, mais pas en mode ruffin. Bon, on va voir, hypothèse, ouais, on va voir. Go chercher France Périphérique. Mais non, mais justement, ça explique, l'article va expliquer tout ça. L'ouvrage connaît un succès d'estime dans la sphère académique. Il entre dans la plupart des bibliothèques universitaires, tout en suscitant l'intérêt de personnalités politiques de premier plan. Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, invite les deux auteurs à venir lui présenter leurs travaux. La publication de Fractures françaises en 2010 aux éditions François Bourin marque un tournant. La dimension ethnoculturelle prend une place nettement plus grande dans l'analyse. Les données empiriques se font plus rares et le ton devient plus polémique, sinon vindicatif. Ok, donc en gros, 2010, il commence à vriller en mode. Parce que ethnoculturel, en gros, c'est quoi? C'est. Je vais le dire également, mais en mode bataille civilisationnelle, quoi. De ce que je comprends. Enfin, j'exagère, mais. En opposition aux travaux idéologiques des chercheurs politisés, Guilly revendique désormais un discours de vérité. Ah ouais, d'accord, ouais, ça c'est. Ouais, bon, ça c'est crinos déjà. Le géographe dénonce l'obsession des banlieues qui masquait selon lui les deux principales recompositions sociales-spatiales liées à la mondialisation. Gentrification et immigration dans les métropoles d'un côté, relégation des catégories populaires traditionnelles, ouvriers et employés, dans la France périphérique de l'autre. Ouah, mais non, mais frérot, tu peux. Mais non, mais c'est une fausse analyse ça. Désolé, en fait, c'est une fausse analyse parce que du coup, hey, Jean-Michel, la migration, c'est un prolétariat. C'est un prolétariat comme les ouvriers. Laissée à l'écart de la production de richesse, cette majorité invisible, blanche et laborieuse serait de plus en plus sensible aux idées du Front National en raison de son opposition au multiculturalisme co cosmopolite. Ah ouais, vas-y, ouais, vraiment, ouais, t'es éclaté. En conclusion, Guilly en appelle à la reconnaissance du capital d'autochtonie ou du retour du peuple et de la réhabilitation du récit national. Ok, donc c'est vraiment ouais, okay, c'est vraiment droitard, enfin c'est vraiment là, c'est même plutôt c'est vraiment extrême droite quoi. Oui, c'est le moment là où qui va devenir populaire aux yeux de Zemmour. Ok, ouais, donc je commence à bien comprendre la logique. PK, je pense à Ruffin. Non, en vrai les gens, en vrai Ruffin il a pas ce genre de tech-là. Ruffin, en vrai, là où vous faites une erreur, c'est que Ruffin il a conscience de la lutte raciale et il a conscience des classes raciales. C'est que lui, il n'en parle pas dans son discours, mais il en a conscience. Et il ne met pas les petits blancs en avant en mode c'est les meilleurs, je sais pas quoi. Il est en mode il veut créer un discours pour éviter la réactance. Après, il faut surveiller Ruffin. Là, je suis d'accord avec vous. Il faut surveiller Ruffin. Mais je pense pas que Ruffin il ait cette volonté de séparer comme ça les deux classes sociales. Non, lui, il est plutôt en mode je vais parler à la classe sociale petite blanche pour justement les intégrer dans un discours plus global. Otec, toute l'extrême gauche s'est méprisée sur les projets de Ruffin et vous forcez à dire Ruffin égale Roussel. Ouais, je suis vraiment d'accord, Thierry, je suis vraiment d'accord avec toi. En raison de la modestie de son éditeur, le livre rencontre initialement peu d'écho. Selon Laurent Chalard, son destin bascule quand Alain Finkielkraut recommande la lecture de Fractures françaises à l'occasion d'une émission télévisée sur France 5. Bon, alors, est-ce que je suis étonné que Finkielkraut fasse une tech éclatée sur un livre éclaté? Malheureusement non. Bon, ok, je commence à voir le. En fait, là, on commence à voir la spirale qui s'installe où il y a que les mecs les plus éclatés qui participent à la mise en avant du livre. De fait, plusieurs quotidiens et hebdomadaires nationaux lui consacrent des articles. Le Monde, Le Figaro, Marianne, tandis que Guy est invité dans l'émission Zemmour et Nolo sur Paris Première, où il est présenté comme l'idole du polémiste star de la droite identitaire. Ok, donc c'est bien ce que tu disais, Rhizomatique. Hein. Ouais, c'est un délire. C'est un délire. L'ouvrage retient même l'attention du président de la République, Nicolas Sarkozy, qui invite le géographe à l'Élysée sur les recommandations de son conseiller spécial, Patrick Buisson. C'est bien, on a vraiment toute la toute la crème de la crème. Ça me fume. Au début des années 2010, plus largement, la notion de France périphérique est progressivement reprise dans le champ politique à droite. Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, et à l'extrême droite, Marine Le Pen, aussi bien qu'à la gauche, Manuel Valls, Cécile Duflot, dans des versions très différentes toutefois. Oh, c'est intéressant que Cécile Duflot l'utilise aussi. Après, je pense que Duflot, en vrai, là, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, Valls, je pense qu'il a conscience du bouquin. Cécile Duflot, j'ai un doute qu'elle ait conscience de l'existence du bouquin. Enfin, ou en tout cas, qu'elle se base sur le bouquin, tu vois. C'est intéressant, ça, je sais pas. En 2012, François Hollande l'invite à son tour à l'Élysée, où il échange avec Emmanuel Macron, qui, selon Guilly, aurait validé son diagnostic à l'occasion d'une rencontre informelle entre les deux hommes. Ok, en fait, il a vraiment rencontré tous les agents du mal qui nous foutent dans la merde, quoi. De fait, dans son ouvrage Révolution en 2016, le futur président cite abondamment la France périphérique. Waouh! Oh, c'est précis, ça! Ah, oh, c'est ultra intéressant! Ouais, ça me fait toujours marrer quand on associe Valls à la gauche. Ouais, bah ça. Les critiques sont rares. La plus notable est sans doute celle de Martin Vanier dans la revue Urbanisme. Dans un court texte, il dénonce la confusion sulfureuse entretenue par l'auteur et sa façon de caricaturer les contenus sociologiques, fonctionnels et idéologiques des catégories qui l'opposent. Adoptant une posture qui sera la sienne jusqu'à aujourd'hui, Guilly refuse de lui répondre ou même seulement de débattre malgré de nombreuses propositions. Ok, c'est intéressant qu'il refuse le débat, tiens. Je trouve ça précis de refuser le débat. Zemmour et Macron, les mêmes idoles, oui. C'est vraiment ça, ouais. Guilly publie un quatrième essai en 2014, La France périphérique. Comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion. Si la thèse est sensiblement la même, sa réception change de ton, de ton et d'ampleur. En fait, moi, Caméléon, désolé, mais la première partie de la réflexion de la France périphérique m'intéressait, parce que je la trouvais correcte. Là où je commence à entrer dans désaccord sur sa vision de la France périphérique, c'est quand il a commencé à exclure justement la périphérie des zones urbaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il développe la France périphérique et dedans il inclut la périphérie des zones urbaines avec les peuples du coup issus de l'immigration, ben, en vrai de vrai, son discours est déjà plus basé. Parce que justement, la France, que ça soit périphérie des zones urbaines ou périphérie dans les campagnes, là oui, il y a une vraie fracture. Mais mettre en confrontation la périphérie rurale et la périphérie urbaine, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a vraiment aucun sens. L'immigration est un détail. Oui, c'est ça, oui, c'est un détail. Ouais. C'est tellement un détail que ça permet de faire voter Le Pen. Non, mais c'est bon, là, on vous connaît. Hein. L'ouvrage est encensé par la quasi-totalité de la presse nationale. Hebdomadaire Marianne qualifiant l'essai de seul livre que devrait lire Hollande. Ouais, c'est vraiment. Il se fait vraiment saucer que par les mauvaises personnes. L'analyse prend une dimension nettement plus politique. Le géographe dénonce la trahison de la gauche de gouvernement, accusée d'avoir abandonné les classes populaires au profit seulement apparent des minorités. Oh, vas-y. Alors, ça, déjà, mes techs de merde. Une rhétorique néo-marxiste déployée à travers la question des inégalités territoriales parcourt tout l'ouvrage. Ah là là. Mais celui-ci emprunte aussi le ton de la dénonciation morale en dressant le portrait d'un acteur collectif. Les classes dominantes, pourvues d'une intentionnalité malveillante visant à exploiter le peuple tout en affichant un faux altruisme. Bah ça, en vrai, je suis un peu d'accord. Enfin, c'est peut-être mal expliqué, parce que comme vous dites, il est géographe et pas sociologue. Après, ça, en vrai, je suis plutôt d'accord. Il y a un côté, les classes, les capitalistes ont une vision, du coup, enfin, sont malveillants d'office. Après, on peut peut-être pas dire malveillants, mais ça, je trouve pas ça forcément idiot, quoi. Tiens, ça se met à sonner comme Loïc Chéniaud. Ouais, ça m'étonne pas. Mais tu vois, en vrai, ça, à part le terme, voilà, en vrai, je vais mettre en vert. À part le terme que j'aime pas trop, qui sont un peu confusionnistes, mais l'idée globale, je suis plutôt d'accord. Pour la première fois, l'ouvrage fait l'objet de quelques critiques, notamment dans Libération. L'éditorial de Laurent Geoffrin reste plutôt positif. Quelques universitaires reprochent à l'auteur sa vision binaire et caricaturale et son absence de prise en compte de la diversité des situations territoriales. Ok. Et ça, je suis vraiment d'accord. En fait, c'est trop dichotomique le truc. Je précise, l'immigration est un détail électoral. Ah oui, pardon. Bah non, juste. Enfin. Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Moi, je pense qu'il y a des gens, justement, on les a tellement fucked up sur leur vision des classes sociales que pour eux, l'immigration est le cœur même de leur vote. Donc, je suis pas d'accord avec toi. C'est justement cette vision de la France périphérique permet de faire un vote autour de l'immigration et pas autour du fait que c'est des gens qui sont pauvres et qui ont besoin d'améliorer la condition des prolétaires, de tous les prolétaires, même les prolétaires issus de l'immigration. En fait, il est un exemple de la droitisation de la société. Il a juste une décennie d'avance. Ouais, je suis un peu d'accord, Mathieu. Ton analyse, elle est plutôt correcte. Certains journalistes critiquent également sa lecture ethnicisée des problèmes sociaux et sa posture victimaire, susceptible d'alimenter les fractures qu'il prétend dénoncer. Oui, après, enfin, je suis pas forcément contre l'idée de critiquer la lecture ethnicisée. Moi, je suis pas forcément contre. Oui, il y a un clivage, enfin, il y a un clivage racial. Ça, il faut le prendre en compte, tu vois. Enfin, non, en tout cas, il y a un racisme structurel, on va dire plutôt. Donc, il faut qu'il rentre en compte. Après, bon. Dans Le Crépuscule de la France d'en haut, 2016, et No Society, en 2018, Guilly tente de faire monter ses analyses en généralité. Déployant une rhétorique qui emprunte à tous ses travaux antérieurs, il y annonce la fin de la classe moyenne occidentale et fait de l'identité la principale clé de la lecture des problèmes politiques et sociaux de la France contemporaine. Ok, donc là, il commence vraiment à vriller, quoi. Enfin, il avait déjà vrillé, mais là, c'est vraiment le summum. Il développe également sa vision de l'Allemagne périphérique, de l'Angleterre périphérique et de l'Italie périphérique. Pourquoi ça sonne que avec l'Allemagne fasciste, l'Italie fasciste? Pardon. Les données empiriques se sont presque totalement taries. Les écrits de journalistes ou de philosophes essayistes, tout particulièrement Alain Finkielkraut, remplacent les cartes et les statistiques et les références aux travaux de sciences sociales. Ok, donc en gros, maintenant, il écrit des essais, quoi. Le succès médiatique n'en est pas moins au rendez-vous, notamment grâce à la publication de bonnes feuilles ou la reprise de bonnes formules. La bourgeoisie des métropoles est qualifiée de nouveau Rougon-Macquart, pardon, déguisé en hipster, tandis que les classes dominantes qui vivent de multiculturalisme à 5 000 euros par mois sont opposées aux classes populaires qui vivent de multiculturalisme à 1 000 euros par mois. Quoi? Attendez, quoi? Tandis que les classes dominantes qui vivent de multiculturalisme à 5 000 euros par mois sont opposées aux classes populaires qui vivent de multiculturalisme à 1 000 euros par mois. Mais ça veut rien dire, ça. Attends, mais ouais, multicul, quoi, c'est. Frérot, ta phrase ne veut rien dire. Ok. Le complotisme qui parcourt les deux ouvrages, il n'est rien d'aussi puissant que la révélation d'un monde, d'un secret dissimulé depuis des décennies, mais connu intuitivement par une majorité de l'opinion. Ah ouais, je trouve par ailleurs un large écho sur les réseaux sociaux. Ok, ouais, donc en vrai, il a vraiment. Ok, donc il a full brillé, droitard, antisémite et compagnie, quoi. Les deux ouvrages su suscitent plusieurs critiques de la part d'experts et universitaires. Ainsi, dans Libération, les membres de la revue Métropolitique, un collectif de jeunes chercheurs en sciences sociales, signent une courte tribune dans laquelle ils dénoncent les représentations fausses ou biaisées de Christophe Guilly, qui, bien qu'usant d'oripeaux scientifiques, cartes statistiques, s'affranchissent de toute précaution et d'objectivité pour alimenter des arguments tronqués ou erronés. Bah en fait, il râle et ajoute le mot multiculturalisme parce que il a le seum et qu'il y ait plus que les blancs parmi les prolos. Ouais, et en plus c'est faux. Mais toi, c'est ça qui m'agace, c'est que c'est complètement faux. Enfin, bref. En gros, il parle des aides sociales. Ah, ok. Ouais, j'ai. Oh, putain. J'ai pas compris sa phrase. Merci pour la traduction. Pourtant éparse, ces réactions déclenchent un véritable déchaînement des partisans de Guilly dans les médias et les réseaux sociaux, tandis que le géographe lui-même reste une nouvelle fois silencieux. Ainsi, dans Causeur, le démographe Michel Tribala s'insurge contre une emprise de démolition médiatique, tandis que la rédactrice en chef de L'Express regrette que la lucidité de Guilly puisse lui valoir de mauvais procès d'intention politique. Wow, ok, et là du coup je suis d'accord avec le fait qu'on tombe dans une idée de droitisation de la société, quoi. D'autres vont jusqu'à qualifier l'auteur de la tribune de lâche et de nouveau censeur ou encore d'aveugle corporatiste. Oh, c'est chelou, hein. Alors que le mec il agit dinguerie, quoi. Le géographe reçoit également le soutien de nombreux sites de la droite identitaire, de l'Observatoire du journalisme à Radio Courtoisie, en passant par Brésinfo. Quelques semaines après seulement, la crise des Gilets jaunes lui offre une exposition médiatique sans précédent. Ok, donc en gros, il se fait récupérer que par l'extrême droite et. Mais moi, ce qui est intéressant, c'est que. Désolé, mais à partir du moment où il commence à faire. C'est juste un géographe à la base. Mais non, justement, l'erreur là, c'est que c'est un géographe, mais il ne fait plus. Là, il n'écrit plus en tant que géographe. Là, il écrit en tant qu'essayiste politique. Là, attention, c'est une erreur à ne pas faire. Ces deux derniers bouquins sont des essais politiques, puisqu'il n'y a plus d'outils scientifiques. Pour moi, là, il y a une erreur à ne pas faire. C'est qu'on est en dehors du cadre scientifique. Tout le monde ferme les yeux sur les manipulations du Sud-Soudan et sa pleurniche quand ils arrivent à nos portes en bateau, ça dégoûte. Ouais, bah ça, classique. Hein. Alors quoi? Tout le monde ferme les yeux sur les manipulations du Sud-Soudan. Nos portes en bateau. Oula. Non mais attends, faut que je te mette un red flag, toi. Attendez. Je pense que lui n'est pas net. Il est pas net. Mais après, oui, en vrai, je comprends ce que tu veux dire. En mode, oui, en fait, il faut d'abord régler les soucis. Enfin, il y a des soucis de corruption à régler dans les pays du Sud. On est d'accord là-dessus. Mais j'ai un doute sur la manière dont tu le formules. Non, vous voulez en donner un sens. Mais non, c'est ce qui est écrit dans l'article, frérot. Aveugle corporatiste comme les vilains médecins qui veulent vous vacciner. Ah ouais, c'est ça. C'est juste un géographe, mais il a oublié de faire de la géo. Bah ouais, c'est ça. C'est que là, il est vraiment en mode essayiste politique. Cette trajectoire éditoriale singulière. Est donc marqué par quatre dynamiques. Une prise de distance progressive et désormais radicale vis-à-vis des méthodes des sciences sociales, on est d'accord, en matière de collecte, d'exploitation et de validation des données. L'affirmation croissante d'une dimension ethnoculturelle dans l'analyse, ouvrant la voie à une rhétorique identitaire victimaire. Ok, bon, ça, tu vois, genre, ça en vrai, vu que j'ai pas lu le bouquin, je vais pas. Je fais confiance, mais je vais pas forcément noter là-dessus. Une couverture médiatique d'envergure nationale est très largement favorable, y compris depuis 2016. Et une consécration politique précoce se traduisant par de nombreux liens avec des responsables de tous bords jusqu'aux trois derniers présidents de la République. À l'aune de ces éléments, on peut affirmer sans esprit polémique que ce qui est totalement irrationnel, c'est de continuer à présenter Guy comme une victime du politiquement correct et l'un et d'un lynchage médiatique. Aveuglement sincère ou stratégie classique de retournement du stigmate, la question mérite d'être posée. Oui, voilà. En gros, c'est clairement la logique de tout l'extrême droite. C'est en mode, oui, là, on peut plus parler nani naner, alors qu'en fait, ils passent tout leur temps à être en avant dans les médias. Donc, ok, je commence à mieux comprendre le personnage. Guy est toujours dans les bibliothèques universitaires, même ses derniers ouvrages. Ouais, bah alors, MDR. Hein. Du mythe politique à la mystification scientifique. Si la France périphérique est devenue le mainstream de la pensée territoriale dans les médias et les partis de gouvernement, elle suscite une très large opposition parmi les chercheurs en sciences sociales. Les critiques adressées à la notion, plus largement aux thèses défendues par Christophe Guilly, se sont exprimées à partir du début des années 2010. Contrairement à ce qu'affirment régulièrement ses partisans, elles sont dans le même temps largement convergentes et marquées par une grande diversité d'auteurs, de registres et de focales. L'idée qu'il y aurait deux camps opposés au sein de la géographie française, récemment évoquée à la radio par le romancier Aurélien Bélanger, apparaît donc erronée. En premier lieu, plusieurs éléments du diagnostic posé par Guilly sont issus de la recherche académique bien antérieure à ses propres ouvrages. Ainsi, la thèse de la moyennisation de la société a été battue en brèche par de nombreux travaux sur le retour des classes sociales, selon un titre d'un article fameux de Louis Chauvel, paru en 2001, sur le creusement des inégalités sociales, Edmond Préticaille et à Thomas Piketty, ou sur l'émergence de nouveaux ouvriers après la classe ouvrière. Ok, alors là, c'est des datas que je connais pas malheureusement. Par ailleurs, Guilly s'attribue ou attribue à quelques intellectuels des approches et des notions forgées dès le début des années 2000 par des universitaires comme le périurbain subi, Martine Berger, le décrochage de certaines campagnes subissant la désindustrialisation ou les difficultés de la France des marges. Ok. Non, mais je ne sais pas ce que c'est le Sud-Soudan, Squall. Donc explique parce que là, du coup, je ne sais pas de quoi tu parles. Et vu que j'ai un doute de tes premiers messages. Des multinationales du pétrole qui financent des mercenaires pour créer une insurrection et faire sécession, tu connais. Ah oui, d'accord, ok. Non, non, bien sûr que non, mais j'avais un doute de quoi tu parlais, de la manière dont tu l'as évoqué, je me suis dit, oula. Vu que je te connais pas trop, je sais pas trop. J'avais un doute, quoi, je connaissais pas le sujet. Mais oui, d'accord, on est d'accord. Mais je connais pas, donne des sources, parce que là, je connais pas le sujet. Faut que tu files des sources, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. Piketty, c'est nul à mon avis. Ok, alors, attends, mais Caméléon, vraiment, hey, à chaque message, Caméléon, tu t'enfonces. Dans les techs éclatés, hein, c'est du génie. Enfin, le consensus idéologique sur certains objectifs politiques, devenu le véritable totem de l'action publique, métropolisation, compétitivité, excellence, etc., ou encore la théorie du ruissellement depuis les métropoles, ont fait l'objet de nombreuses destructions stimulantes, pardon, de Fabien Desage à Olivia Bouga-Olga, en passant par les travaux de l'ANR Algol-Ross sur la décroissance urbaine. Et puis on l'a vu, la théorie du ruissellement, bon. La prétention de Guilly à révéler un monde secret dissimulé depuis des décennies, No Society, page 21, est donc soit le témoignage d'une méconnaissance des références majeures de son champ d'étude, soit, plus prosaïquement, le fruit d'une mise en scène cherchant à faire le buzz. Ah, c'est marrant la manière dont il. En vrai, il parle même pas en mode antisémite ou quoi, donc en vrai, c'est intéressant de le citer de cette manière-là. Je trouve ça intéressant. Elle témoigne aussi plus profondément de la difficulté des universitaires à diffuser et valoriser leurs résultats pour construire les bases de controverses utiles au débat public. En effet, en deuxième lieu, l'idée qu'il y aurait une collusion entre monde académique, classe politique et médias est une supercherie. Et la réalité est que, pour plusieurs raisons comme le quasi-monopole du pouvoir par les hauts fonctionnaires, ou la dévalorisation sociale et économique des diplômes académiques, à commencer par le doctorat, les universitaires français sont très faiblement représentés dans le débat politique et médiatique. Ça, c'est vrai en vrai. Malheureusement, de plus en plus, on a perdu le fait de mettre des scientifiques sur le devant de la scène, dans les médias et compagnie. Ou alors, c'est moins mis en caisse de résonance. Je sais pas trop c'est quoi la vraie critique de ça. Et du reste, j'ai vu un article qui parlait de ça. Je crois que c'était une tribune sur Mediapart ou une tribune sur Reporter en mode. Il faut vraiment qu'on réécoute les scientifiques, enfin, en tout cas qu'on remette la question de la science dans le débat public, parce que bah, c'est important d'avoir ça, quoi. Merci beaucoup, Comise, pour le 10e mois d'abonnement, tu gères. Désolé, il n'y a pas les alertes, et merci beaucoup pour le follow, Niar. Dans un récent entretien aux médias spécialisés acteurs publics, l'ancien secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, Thierry Mandon, confirme et regrette cette marginalisation unique en Europe par son ampleur. En Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, l'expertise académique est non seulement reconnue, mais recherchée. Les cadres des collectivités, les élus et souvent même les ministres sont issus de l'université. Les méthodes des sciences sociales irriguent les débats. Alors que c'est vrai que nous, à l'inverse, j'ai l'impression, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai un peu l'impression que les sciences sociales, c'est genre mal vu. En mode, oui, c'est une science de bas étage, ça n'a pas vraiment d'importance et compagnie. J'exagère, hein, mais j'ai un peu cette vision-là de loin. Les réactions des chercheurs étrangers au succès politico-médiatique de Christophe Guilly, oscillant entre incrédulité et exaspération, sont tout à fait significatives à cet égard. En troisième lieu, croire ou laisser croire que les chercheurs constitueraient un bloc homogène au plan scientifique et politique, dont les théories et les intérêts seraient convergents, relève du fantasme. Bien au contraire, le monde académique est traversé par de nombreuses controverses, parfois très vives. Voilà. Bah, globalement, il y a on va le faire très simplement, mais il y a des chercheurs d'extrême droite et des chercheurs d'extrême droite, d'extrême gauche, pardon. Enfin, vous n'avez pas d'extrême droite, mais globalement, il y a des chercheurs de droite et d'extrême gauche. Parce que je pense que s'il y a quand même d'extrême droite, mais ils sont peut-être pas aussi visibles. Mais oui, bien sûr, la science n'est pas neutre, voilà, tout ça, vous connaissez. Hein. Celle-ci s'exprime dans le respect des règles du débat scientifique qui s'appliquent partout dans le monde. Honnêteté et rigueur intellectuelle, validité empirique, confrontation des résultats. Si l'opposition à la notion de France périphérique est l'un des rares objets de consensus au sein des sciences sociales francophones, c'est qu'elle s'adosse à des critiques solidement argumentées et s'aventurant rarement sur le terrain politico-idéologique, alors que, précisément, Guilly et ses partisans tentent de les décrédibiliser a priori comme venant d'idéologues plus militants que scientifiques. Oui, alors qu'en vrai de vrai, c'est lui qui est dans cette logique plus militant que scientifique. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, en délaissant l'outil scientifique, il ne fait que de l'idéologie. Alors que justement, les militants qui font, enfin les chercheurs en sciences sociales, qui font voilà, des chercheurs plus à gauche, mais qui mettent des sources, enfin des trucs scientifiques, au moins tu peux contrer les arguments scientifiques et dire, ah là, je suis contre, et tu peux du coup et amener de l'idéologie et amener du scientifique dans le même article. Que lui, il est vraiment en mode, bah, je ne fais plus que de l'idéologie, quoi. Avoir l'INA, etc., c'est former l'appareil d'État, pas l'université. Ouais, exactement, c'est ça, t'as raison, Mathieu. De ouf, de ouf. La plupart des gens qui font de la socio sont de gauche ou d'extrême gauche, donc. Les seuls qu'on voit à la TV sont les rares de droite, comme Bronner par exemple, qui n'est plus invité depuis qu'il s'est rendu compte qu'il a été manipulé. Ouais, ben voilà. Et en fait, t'as raison, Arwitch. Et en vrai de vrai, c'est ça le problème, c'est que du coup, il y a un peu ce jeu médiatique, et vu que les médias sont globalement de droite et d'extrême droite, bah, on n'a plus cette possibilité, on n'a plus cette caisse de résonance. T'as raison de préciser ça, ouais. Très bonne analyse. Un premier ensemble de critiques concerne la méthodologie utilisée par le géographe pour construire sa France périphérique. Au fil des ouvrages, les contours de celle-ci ne cessent de changer et sa définition n'est toujours pas formulée qu'en creux. La France, toute la France, hors des 15 ou 20 terres urbaines les plus peuplées du pays au sens de l'INSEE, et une partie de la couronne périurbaine jamais définie néanmoins. Voilà, donc c'est pas clair. Et en vrai, moi, ce qui me fascine aussi, hein, c'est que j'ai l'impression que le Jo-Michel, la France périphérique, j'ai l'impression que la France des Outre-mer n'existe pas, quoi. Bon, de toute façon, est-ce que je suis étonné? Tu l'as eu comme prof de sociaux, ok, incroyable. Je connais pas trop en vrai Bronner. Une telle représentation conduit, par exemple, à classer comme périphériques les classes créatives d'Angers, les chercheurs de La Rochelle et les cadres supérieurs d'Annecy. Quoi? Tandis que les dockers de Seine-sur-Mer ou les mineurs retraités de Lens seraient, pour leur part, métropolitains. Élus et habitants seront heureux de l'apprendre. Attends, mais quoi? Mais wesh. Non, mais il est nul à chier, le frérot. De même, l'ensemble de l'espace rural des vallées désindustrialisées de l'Est aux campagnes viticoles prospères du Val-de-Loire, en passant par les villages touristiques du Luberon, est relégué dans la France périphérique. Waouh, ouais, vraiment, il est vraiment naze. Hein. Dur, ça n'a pas dû être agréable. Hein. C'est pas un bail qui remonte à une division de la France durant la Révolution, ça, peut-être. Hein. Brunner, c'est le sociologue qui a le gouvernement a demandé de créer des centres de déradicalisation pour les terroristes. Ok. Tech bizarre. Ok. Je connais pas. Ces écueils sont directement liés à la fragilité du protocole méthodologique mobilisé par l'auteur. On l'a dit, la présentation des données et des sources de se fait de plus en plus floue au gré de ses publications, au point d'être totalement invisibilisée dans nos sociétés, ce qui permet de ne plus avoir à s'en rendre compte. Quelques chercheurs ont néanmoins fait l'effort d'analyser le grand variable statistique agrégé servant de base à la démonstration analytique et cartographique de Guigui. La réalité est qu'elles sont presque toujours construites en ad hoc pour les besoins de la démonstration. Ainsi, le critère de fragilité sociale, point cardinal de l'analyse de la France périphérique, est défini de manière particulièrement extensive. Près de 25 000 communes françaises, regroupant 65% de la population nationale, sont classées comme fragiles. Leur répartition géographique, leur composition sociale, leur profil fonctionnel sont pourtant extrêmement hétérogènes. Mais oui. Mais putain, mais il est sérieux le frérot. En fait, allô ? Genre, tu vas par exemple dans la périphérie, genre en Bretagne, ou la périphérie, même dans le Luberon, t'as des bourgeois. Genre, mais comment tu peux être éclaté comme ça ? Genre, oui, il y a des classes sociales, et du coup, bah, dans ces classes sociales, il y a des gens qui ont une volonté de domination et de vouloir s'embourgeoiser et compagnie. Enfin, je sais pas, c'est le B.A.B.A. en fait. Pour éviter ces bails homogénéisateurs, les recherches en sciences sociales mobilisent des méthodes qualitatives, par exemple des monographies détaillées de communes ou de quartiers, et des travaux de terrain. En la matière, le bas blesse à nouveau, comme tant d'autres commentateurs. Après lui, Christophe Guilly analyse la France périphérique depuis le cœur de la France métropolitaine. Ah là 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 là. Nulle trace dans ses travaux d'entretien avec les élus, d'enquête au contact des habitants et des usagers, d'observations participantes dans les associations, les maires et les bistrots. Bon, après, s'il n'est pas sociologue, bon, ça en vrai, je peux comprendre quoi. Comme le souligne justement le sociologue Benoît Coquart, la représentation de la France périphérique a donc été entièrement produite et appropriée par des personnes qui ne connaissent pas les territoires qu'elles recouvrent et encore moins leurs habitants. La prétention à parler à leur place et en leur nom n'est non pas sans rappeler les écueils de la classe objet. Dénoncé par Pierre Bourdieu à propos de l'étude des paysans, la France périphérique a été en quelque sorte dépossédée d'elle-même. Oui, je suis clairement d'accord avec cette critique-là. C'est donner un écho à des gens qui ne sont pas... En fait, on n'a pas la vraie vision de ces gens-là. Du coup, c'est clairement faux la manière dont il évoque le sujet. Ok, donc du coup, je commence à comprendre. Donc Christophe Guilly, vraiment nul à chier. Faut vraiment... En gros, les gens qui commencent à l'évoquer, j'ai un petit red flag là-dessus. Et du coup, je peux commencer à argumenter facilement contre leurs idées pas ouf, quoi. La rhétorique des deux France s'inscrit dans une histoire longue. L'Est urbain est industrialisé contre l'Ouest rural et paysan au XIXe siècle. Paris est le désert français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la diagonale du vide des années 70. Ces lignes de fracture se fondaient au moins partiellement sur des observations objectives et rendaient compte en moins autant des oppositions que des complémentarités entre les territoires. Au contraire, comme le rappelle le géographe Daniel Béard, la France périphérique se borne à postuler un clivage vertical et irréductible entre un peuple, des territoires dominés et des élites, des territoires dominants. Pourtant, des dizaines de travaux de sciences sociales ont documenté de manière beaucoup plus rigoureuse, plus précise et plus stimulante que Guilly les effets inégalitaires de la mondialisation sur les sociétés et les territoires. À la suite de Pierre Vels, pourtant, l'un des principaux inspirateurs des premiers travaux du géographe, on peut essayer de résumer leurs principaux résultats. En vrai, ça m'intéresse ça, de voir justement c'est quoi les autres visions du monde là-dessus. Oh merde, la diagonale du vide, c'est un running gag fake. De quoi ? J'ai même pas rebondi là-dessus parce que je me dis, bon. En premier lieu, les grandes évolutions socio-économiques décrites par Guilly concernent tous les types de territoires, dont les proportions assez comparables entre les métropoles, hors Île-de-France, et le reste du pays. Ainsi, la part des ouvriers et des employés décline de manière continue en régulière depuis 40 ans dans les espaces ruraux aussi bien qu'urbains. ces derniers accueillant encore en stock une large majorité d'entre eux. Ouais, en mode, en gros, on passe à une société de service, quoi. De ce que je comprends bien. Ce qui me paraît évident. Cette dynamique ne signifie pas pour autant la fin de la classe moyenne occidentale. Les professions intermédiaires sont loin d'avoir disparu. Elles représentent un quart de l'emploi, un chiffre en croissance. Mais même, de toute façon, la fin de la classe moyenne, ça veut rien dire. Genre, déjà, rien que de dire classe moyenne, tu passes pour un bolos, quoi. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Parce qu'en vrai, ça veut rien dire, classe moyenne. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent, mais... Faudrait que je voie un peu plus là-dessus, quoi. Je pense que les sciences se politisent de plus en plus et sont à gauche. Klein, Barrault, Villani, Chomsky. Il y a peu de scientifiques pop de droite. Ouais, à voir, en fait. Je pense qu'ils sont surtout un peu... Ils sont pas forcément médiatisés dans les trucs grand public. Ou alors, ils passent plus... Ils passent, en gros, vu qu'ils sont dans le domaine... Dans le truc dominant, bah, ils ne passent pas forcément comme des auteurs de droite. Enfin, comme des scientifiques de droite. Je sais pas, en vrai, là, j'avoue, je maîtrise pas trop. Donc, vu que je connais pas de penseurs de droite à part Alain de Benoît, je sais pas trop quoi penser sur la question. En outre, si la mobilité sociale n'a pas augmenté depuis les années 80, elle n'a pas non plus diminué. Et ce sont précisément les enfants issus des classes moyennes qui ont vu le plus progresser leurs chances d'ascension sociale. C'est intéressant, ça. On reprend le débat sur la classe moyenne. Mais en fait, justement, c'est ça, c'est classe moyenne. C'est pas ouf pour parler de tout ça, quoi. Bricmont est à droite, je pense. Ouais, je connais même pas Bricmont. En deuxième lieu, les disparités territoriales ne distinguent plus nettement telle ou telle catégorie. Urbain, rural, Paris, province, métropole, France périphérique. Au contraire, elles s'enracinent désormais à des échelles fines, le plus souvent au sein du monde urbanisé. Les grandes villes sont à la fois les lieux privilégiés de concentration des richesses et les points de fixation de la pauvreté. Les faibles niveaux de vie sont systématiquement surreprésentés, y compris dans les villes les plus riches comme Paris et Lyon. Voilà. Et ça, je suis d'accord avec ça. En mode, en vrai de vrai, il y a autant de pauvreté quasiment dans les villes que dans les ruralités, quoi. En troisième lieu, selon les points de vue, les échelles et les indicateurs considérés, on trouve des gagnants et des perdants partout en France dans des combinaisons diverses. Ainsi, la Seine-Saint-Denis est le 7e département de France métropolitaine pour la richesse produite, mais l'avant-dernier pour les revenus médians dans les ménages. Ah, c'est intéressant, ça. Non, mais Caméléon, désolé, ton auteur, il est nul à chier. Alors, il a que des techs éclatés, en fait. Genre, si c'est lui, Bricmont, Goresfag, ok. C'est vraiment, si vos auteurs, enfin, si vos têtes pensantes, c'est ce genre de gars, mais développez votre pensée, en fait. Enfin, allez voir d'autres auteurs, je vous en supplie. Dans la réalité, tu n'as que des gens qui bossent bien souvent. De quoi ? Là, je comprends plus rien. À l'autre échelle, l'Occitanie est à la fois la deuxième région française par le taux de chômage et la première par l'accueil de populations nouvelles et la création d'emplois. Si le territoire français a plus d'une pente, selon la formule du géographe Roger Brunet, c'est que les difficultés sont loin d'être toujours cumulatives dans l'espace et dans le temps. Et vraiment, et dire que dans la réalité, tu n'as que des gens qui bossent bien souvent, frérot, tu ne connais pas la ruralité, en fait. Tu n'as jamais connu les ruraux qui s'explosent le crâne en ruralité dans des rêves parties parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas de taf, et du coup, il y a une énorme montée de la drogue et énormément de gens qui se tuent avec la drogue et compagnie, en fait. J'y vis, bah frérot, en fait, désolé, mais tu y vis, mais tu dis des bêtises. Genre, arrêtez de descendre. En fait, n'essentialisez pas les lieux. Genre, dans la ruralité, il y a tout type de personnes, c'est hétérogène, en fait. Et moi, par exemple, bah, dans ma ruralité, dans celle que j'ai connue, bah, c'était la plupart des gens alcooliques qui se défonçaient le crâne avec des drogues et qui, en gros, faisaient de l'usine et du coup se pétaient le crâne. Et voilà, et en fait, ça arrivait à faire que des rêves parties pour bah, essayer de sortir de cet isolement parce qu'il n'y a rien à faire et que. Il n'y a pas de culture, il n'y a que dalle, quoi. Donc vraiment, arrêtez d'essentialiser les régions, la ruralité compagnie. Il y a des disparités dans chaque endroit. Vous ne pouvez pas dire, oui, dans une région, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, en fait. La classe moyenne, ça va quand même de la pertinence à un moment dans les 30 Glorieuses, par exemple. Ouais, en vrai, oui, en vrai, classe moyenne, ça a une forme de pertinence, mais ça m'agace un peu de le déployer comme ça. En quatrième lieu, de très nombreux territoires non métropolitains sont en bonne santé démographique et économique. Depuis les années 70, l'espace peu dense à vue de sa population progresse à un rythme plus soutenu que celui des cœurs des grandes aires urbaines. Oh, c'est intéressant, ça. Je ne savais pas. Cette croissance est essentiellement liée au solde migratoire. Autrement dit, ces espaces supposés délaissés attirent chaque année de nouveaux habitants. De même, les zones d'emploi les plus dynamiques du pays sont situées loin des pôles métropolitains. Issoire, les Herbiers, Avranches et Cluses. Ok, donc en gros, ouais, donc la ruralité se retrouve, enfin la périphérie, je sais pas comment on pourrait dire, se retrouve quand même avec une population grandissante. Avec un taux de chômage de 5% et un taux de pauvreté de 12%, le département du Cantal, si souvent cité par Guilly comme emblème de la France périphérique, pourrait presque apparaître comme un havre de prospérité en regard de la métropole la plus attractive de France, Montpellier. 13% de chômeurs et 19% de pauvres. Mais oui, c'est pour ça que c'est, franchement, c'est naze de développer comme ça. Enfin, c'est... Bref. En vrai, je pense que c'est intéressant de parler de classe moyenne quand tu parles avec les personnes de peu politisées pour les convaincre, comme beaucoup de gens ont tendance à s'identifier à cette classe, notamment à cause de la classe de la conscience de classe par les... attends, notamment à cause de la... Ah oui, de la casse de la conscience de classe par le néolibéralisme. Mais on est d'accord que dans un discours militant, ça, c'est peu précis quand on parle de sociologie. Ouais, on est vraiment d'accord. Genre, on est vraiment d'accord là-dessus où il faut... je pense qu'il faut... si, Squall, tu peux parler? Je pense qu'il faut du coup faire attention avec ce genre de termes pour ah merde, du coup il m'a perdu. Mais oui, en fait ouais, je pense qu'il faut dire du coup le terme classe moyenne. Enfin, il peut être intéressant pour les gens qui sont un peu politisés. Mais moi en fait justement, je suis plutôt pour le retrouvement d'une classe prolétaire et dire vraiment tu es prolétaire. Genre tu es salarié, tu travailles, tu es prolétaire. Et moi je pense qu'il faut vraiment remettre ça au goût du jour. En mode il faut qu'on retrouve les gens genre. Tu ne fais pas partie de la classe moyenne, non, tu fais partie de la classe des prolétaires. Et du coup, tu subis une domination. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut amener. Et du coup, retrouver la conscience de classe et justement arrêter de se faire baiser par le côté classe moyenne, tu vois. Parce que classe moyenne, ça veut rien dire. Il y en a, en fait, tu lui dis classe moyenne, mais du coup, il se considère plus prolétaire. Alors que si, tu es un prolétaire. En vrai, perso, dans mes montagnes, les jeunes bossent et ont des perspectives. Oui, voilà. Et l'Unio Vio, dans les montagnes, donc tu parles d'une ruralité bien spécifique avec un taux de tourisme très élevé qui fonctionne en saison. Donc tu vois, tu ne peux pas mettre la campagne picarde et les montagnes à la même échelle. C'est pas du tout la même ruralité. Donc tu vois, c'est pour ça que tu peux pas arriver dans un chat et dire la ruralité, ça bosse. Bah non, dans ta zone, ça bosse parce que. Les comment on appelle ça, merde, j'ai dit le terme tout à l'heure, parce que ça marche en saison, parce que ceci, parce que cela, tu vois. Bon, les prolétaires propriétaires, ils rêvent de bourgeoisie. Bah ouais, mais ça, qu'est-ce que tu veux. Comme toujours, toutefois, les statistiques masquent une réalité sociale contrastée et des difficultés des entreprises locales à attirer des jeunes actifs qualifiés. Ok, donc et ça, je suis d'accord avec ce constat là malheureusement, il y a rien à faire dans les campagnes, donc c'est la sauce, quoi. Enfin, la France périurbaine est marquée par une grande diversité sociale et fonctionnelle. Elle crée plus d'emplois que les centres des villes. Elle accueille aussi bien les chefs d'entreprise installés que des ouvriers qui quittent le logement social, des employés attirés par la faiblesse relative des prix fonciers, que des fonctionnaires qui se rapprochent de leur lieu de travail, des retraités attachés à l'idéal villageois, que des jeunes cadres s'y déployant pour leur projet familial. Et ça, pareil, je suis d'accord avec ça. À l'échelle nationale, ces périurbains disposent d'un revenu médian annuel de 20 975 euros, plus élevé que celui des habitants des villes au centre, 19 887. Oui, ok, d'accord, en gros, je suis mort. Donc toute sa pensée de Guilly, en fait, elle se casse la gueule, quoi. Et il ne constitue pas un réservoir naturel du vote FN, comme le voudrait une sociologie simpliste de la haie de Thuya et du chien de garde. Leur vote se répartit sur tous les spectres, peu à peu près comme la moyenne du pays. On est d'accord aussi. Hop là. Le problème, c'est que avant, les prolétaires ne possédaient pas leurs moyens de production, et on l'a vu l'autre fois, le secteur proprio de son bateau est un prolo moderne. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Non, mais en vrai, c'est pour ça qu'en vrai, je pense qu'il faudrait que je relise un peu des sujets sociaux pour un peu voir c'est quoi un peu les nouvelles classes sociales. Mais il n'empêche que moi, là, dans mes streams, j'aime bien dire en gros le terme de prolétaire parce que je pense que à partir du moment où t'es salarié et que tu subis une domination, tu es un prolétaire, quoi. Prolétaire, faut expliquer le mot après classe moyenne, les gens sont déjà une idée en l'entendant, autant dire classe travailleur précaire, pauvre ou inférieur. Ouais, je suis d'accord. En raison d'une des raisons principales de l'écho rencontré par les thèses de Guilly, tient dans le lien qu'il établit entre la France périphérique et une colère sociale qui trouverait son exutoire dans le vote pour l'extrême droite, Front National puis Rassemblement National. Les périodes électorales se suivent et se ressemblent. Guilly s'empresse de décrypter les résultats à l'aune de ses propres grilles de lecture et d'y voir une validation de ses théories. Macron est le candidat des métropoles mondialisées, inversement de la même manière que l'Amérique périphérique a porté le vote Trump et l'Angleterre périphérique le Brexit. La France périphérique, celle des petites villes, des villes moyennes et des zones rurales, porte la contestation populiste. Ouais, c'est vraiment léger hein, comme vision du monde. Pourtant, les travaux académiques fondés sur les échelles d'analyse fines et des méthodes pluridisciplinaires dessinent une géographie électorale bien différente. Ainsi, plusieurs chercheurs ont bien montré, en prenant appui sur des résultats électoraux du premier tour de l'élection présidentielle 2017, que les voix des électeurs des trois principaux candidats, Macron, Le Pen, Mélenchon, se sont réparties de manière relativement homogène dans l'ensemble du territoire français. Ben oui, spoiler, il y a des classes... En fait, c'est ça qui me fait rire. La disparité des classes sociales se situe partout en France. Emmanuel Macron, candidat ô combien emblématique des élites parisiennes et mondialisées, a obtenu des scores très proches dans les grandes villes et des villes petites et moyennes et les territoires ruraux. Et au deuxième tour, 70% dans le Cantal, 75% à Bourges, préfecture désindustrialisée de la diagonale du vide, 72% à Dourdan, dans le lointain périurbain pavillonnaire francilien, et encore 71% à Thionville, au cœur d'un des bassins industriels en décroissance parmi les plus durement frappés par la crise de 2008 et 2011. Ça, c'est ouf, hein. Ils sont tellement pauvres qu'ils votent pour le mec qui va détruire le pays, quoi. Classe travailleuse, c'est bien, je trouve, ça oppose à la classe feignasse, c'est-à-dire les gens qui font bosser les travailleurs. Ouais, mais tu vois, classe des travailleurs, du coup, ça enlève ceux qui sont RSA, ceux qui sont au chômage et compagnie, tu vois. Parce que du coup, bah, ces gens-là sont, entre guillemets, sortis d'office de la classe travail parce que la société, on pense que ces gens ne travaillent pas, tu vois. Donc c'est particulier. Mais oui, en vrai, je suis un peu d'accord avec toi, mais ça peut mal passer. Si le vote pour Marine Le Pen est plus polarisé spatialement, près de 80% des voix qui sont portées sur elle sont celles des électeurs des grandes aires urbaines, cœur et périphérie. Dans une analyse statistique détaillée, les chercheurs du CNRS ont enfoncé le clou en soulignant l'absence de corrélation nette entre le vote pour ces deux candidats et le type de territoire. Dans ce champ d'études aussi, un consensus se dégage. Les explications du vote sont avant tout à chercher dans la profonde transformation des rapports au travail, dans l'accentuation des inégalités sociales et dans les déstructurations des instances de régulation collective, dans les lieux d'emploi, dans les activités associatives et dans la vie locale. Non, les RSA et les chômeurs sont considérés comme population active. Oui, non, mais active dans pour toi, hein, pour les gens qui connaissent. Mais pour les lambda, RSA et chômeurs, c'est des branleurs, tu vois. Bien sûr que c'est des gens qui activent, enfin, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la logique du bien commun, la logique globale des gens, on va dire le normie moyen, tu lui parles des RSA et de chômeurs, c'est en mode, oui, bah, les Jean-Michel qui prennent les aides et qui cassent les couilles, tu vois. Mais bon, ça, qu'est-ce que tu veux. Le problème, c'est que le mot prolétariat est ancré dans la pensée marxiste. Les personnes matrixées par le capitalisme, même les prolos vont voir tendance à associer danger d'un discours communiste à l'URSS. Ok. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pour ça qu'en vrai, le terme travailleur, je pense que c'est un des meilleurs termes. C'est vrai. Finalement, il n'est pas si compliqué de comprendre le succès éditorial, politique et médiatique de Christophe Guilly. D'une part, ses analyses offrent des interprétations simples, non seulement des factures sociales et territoriales, mais aussi du rejet des élites et de la montée du populisme des succès électoraux du Front National. De l'autre, celles-ci sont parées des atours et de la scientificité grâce à une série d'indicateurs et de cartes présentées comme objectives. Or, force est de constater que certains élus, experts et journalistes sont particulièrement friands de vérités simples et unilatérales, susceptibles de déboucher sur des solutions manichéennes ou de nourrir des discours démagogiques potentiellement mobilisateurs. Et du coup, je comprends mieux pourquoi il est récupéré par tous les débiles d'extrême droite, quoi. Guillet en est parfaitement conscient. Face aux tenants de ces plus compliqué que ça, il dénonce le refus de généraliser et la tendance qu'auraient les universitaires à occulter le réel, alors que précisément ce sont ces positions qui sont contradictoires avec toutes les données et analyses disponibles. Et vraiment, non mais putain, mais vraiment, les gens qui mettent Guy en avant, enfin, au secours quoi. Mais si cette rhétorique du seul contre tous est utile pour occuper l'espace médiatique et commercial, voire pour construire la mythologie du chercheur courage, Elle s'effrite à mesure de la fragilité de ses fondements et mise en lumière. Le mouvement des Gilets jaunes a joué un rôle décisif en la matière. Ah ouais, j'ai hâte de voir l'analyse avec les Gilets jaunes parce que du coup, je veux voir un peu de où elle vient la contre-indication. Quoi. Les Gilets jaunes apogée des dépassements de la France périphérique. Ah oui, parce que oui, du coup, il y avait aussi dans les... Oui, ok, je comprends mieux. Il y a un an encore, Christophe Guilly ne cachait pas son enthousiasme face à l'irruption des Gilets jaunes. En effet, celle-ci semblait consacrer de manière éclatante sa représentation d'une France coupée en deux entre métropole dynamique mondialisée et territoire périphérique laissé pour compte, et ressemble le gros du peuple. La contestation en cours n'était finalement que l'expression de la revanche des seconds à l'égard des premiers. Las, loin de confronter cette théorie, De conforter cette théorie, ce mouvement social atypique en a montré toutes les limites et impasses, au gré des rapports de police, des sondages des grands instituts et des enquêtes de terrain réalisées par les chercheurs en sciences sociales sur la base d'échantillons significatifs. Et on pense notamment à Monique et... Merde, Monique et... Bref, Monique Pinson-Charlon et son mari. Les premiers gilets jaunes ainsi que les plusieurs coordinateurs nationaux sont originaires de l'agglomération parisienne, métropole mondiale située au sommet de la France métropolitaine. Et pour cause, si les franciliens utilisent un peu moins leur voiture et réalisent les trajets un peu plus courts que le reste des Français, ils passent en moyenne 75 minutes par jour dans leur véhicule, contre 45 pour les habitants de l'espace rural. Ah ouais, oh, c'est une sauce ça. En somme, dans le Grand Paris, le budget temps compense largement les moindres coûts liés au déplacement. Les figures charismatiques des gilets jaunes sont marquées par une grande diversité sociale et résidentielle. Ce sont aussi bien des chefs d'entreprise vendéens que des ouvriers d'Amiens. Ah, let's go ! Des petits commerçants du périurbain toulousain que des fonctionnaires du centre de Moulins, des retraités bretons que des jeunes cadres franciliens au pouvoir d'achat plombé par le coût du logement. En somme, une véritable mosaïque socio-professionnelle totalement imperméable aux représentations binaires. Et du coup, là, en vrai... On pourrait dire que oui, c'est entre guillemets le bas de la classe moyenne. En gros, les pauvres et le bas de la classe moyenne qui étaient les gilets jaunes. Pour un peu rajouter ce terme avec la classe moyenne. Et du coup, l'autre problème avec le terme travailleur, c'est que ça peut être excluant pour des gens au RSA, handicapés ou marginalisés du monde du travail. On est d'accord. Ça peut même renforcer cette idée de profiteur ou assisté que les droitards adorent utiliser et qui est malheureusement, comme tu le disais, déjà une opinion commune dans notre... Voilà, on est clairement dans cette idée. Et c'est pour ça que je pense que il faut trouver un espèce de mix entre prolétariat, salarié, travailleur, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est chaud de voir trouver un terme. Je suis vraiment d'accord avec toi. Let's go les promotions, mais oui, évidemment. La cartographie des lieux de blocage et d'action des gilets jaunes montre que l'immense majorité des communes concernées est située au sein des grandes aires urbaines. Bien sûr, on ne manifeste pas toujours là où l'on habite. Et pour cause, le mouvement reflète moins des frontières infranchissables que le rôle central des interdépendances territoriales dans les pratiques sociales des Français. De fait, les gilets jaunes dits de la périphérie se retrouvent bien souvent pour manifester au centre, c'est-à-dire là où ils font leurs études, où ils vont faire leurs courses le week-end, où ils emmènent un proche à l'hôpital ou leur famille au cinéma. Oui, en gros, tu vas pas manifester dans ton petit village, tu vas te retrouver dans une zone du coup urbaine, un peu plus où il y a plus d'habitants pour avoir plus de représentation, etc. quoi. Et aussi un lieu de regroupement. Ainsi, l'automobile est moins le symbole d'une France périphérique marginalisée qu'un outil coûteux qui permet aux ménages de tirer parti des ressources et des services offerts par ces différents espaces. Cette forme de zapping territorial contredit frontalement les analyses en termes de relégation ou de sédentarisation. Bien qu'étant encore plurielles, les revendications des Gilets jaunes ont progressivement convergé vers des enjeux de justice fiscale, sociale et spatiale, augmentation des bas salaires, revalorisation du pouvoir d'achat, égalité face à l'impôt, maintien des services publics sont les seuls mots d'ordre partagés par l'ensemble des manifestants. Or, la fragilité sociale traversant les territoires autant que les origines ou les générations, elle concerne aussi bien les familles du Pas-de-Calais, frappées par le déclin industriel, que les agriculteurs du Berry, lourdement endettés, ou des travailleurs précaires de la banlieue lyonnaise. Voilà, on est d'accord. Et c'est pour ça que c'est un truc multiculturel, multiclasse sociale et compagnie, quoi. Enfin, pas multiclasse sociale, mais multiclasse socio-professionnelle, on va dire. On peut dire classe des travailleurs et classe précaire, l'un n'exclut pas l'autre, et deux collent bien la description du prolétariat. Oh, j'aime bien, ouais, j'aime bien. C'est intéressant, classe précaire et classe des travailleurs, c'est vrai. Et comme ça, en plus, tu peux marier ton discours en mode classe des travailleurs, ceux qui bossent, et classe précaire à ceux qui sont genre en mode de RSA et compagnie. Donc ouais, en vrai, j'aime bien les classes sociales que tu évoques. Le mélange des uns et des autres au sein du mouvement, ainsi que l'absence de revendications de type identitaire, malgré quelques tentatives de manipulation grossière, montrent que les visions binaires et ou ethnicisées des divisions des classes populaires relèvent avant tout de la réputation idéologique. Élus et citoyens ont exprimé leur lassitude grandissante face aux grilles de lecture simplistes et caricaturales. Les seconds ne se sentent en aucun cas périphériques, mais demandent de la considération de la part des médias, des chercheurs et des responsables politiques. Oui, voilà, en gros, on veut exister, quoi. Salut à toi, Sir Magic. Les premiers souhaitent travailler sur la base de données empiriques et d'analyses robustes qui permettent de regarder la réalité en face dans sa complexité. Ainsi, les fédérations d'élus, les centres de formation des techniciens territoriaux, les associations se détournent les uns après les autres de la France périphérique. Ouais, parce que c'est trop vaste. En vrai, c'est bien, c'est intéressant de faire ça. Pour une raison simple, le succès du concept est inversement proportionnel à sa capacité à forger des réponses concrètes aux problèmes des Français. Oui, Oui, voilà, c'est voilà, on est d'accord. En mode, ok, c'est un terme qui a l'air d'être, il fait mouche et compagnie, mais vu qu'il ne veut rien dire puisqu'il n'a aucune définition sociologique, eh ben, on peut pas, quoi. Aucun responsable ne peut aujourd'hui construire des politiques de solidarité susceptibles de concilier l'innovation, transition écologique et respect des idéaux de justice sociale et spatiale, sur la base d'une représentation incorrecte et purement victimaire. Opposer grossièrement territoire gagnant et perdant ou bon pauvre et mauvais pauvre permet de faire un tri pour réduire le nombre de ceux qui méritent d'être aidés. Mais cela n'a jamais réglé leurs problèmes. Voilà, oui, je suis d'accord. C'est clair, bah ouais, c'est ce qu'on disait en vrai avec le truc. Et oui, Cyril, on est d'accord, t'as pas besoin de crier, hein. Enfin, crier. Les chômeurs sont des travailleurs sans emploi, faut arrêter de couper les cheveux en quatre à vouloir réinventer la langue française tous les matins. Non, mais en fait, je suis d'accord, Cyril, je suis vraiment d'accord avec toi. Mais il est pas ban, Zizi, hein. Arrêtez de croire qu'il est ban, Caméléon. Qu'il est pas ban. Oui, c'est trop bas, c'est énorme la France. Mais oui, c'est énorme. Quand tu vas au bout à l'autre, putain, tu te dis que c'est sacrément grand. Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis même, c'est tellement vaste, il y a tellement une différence des classes sociales, tu peux pas dire, oui, c'est un ensemble commun égal, tu vois. Faut réfléchir 5 minutes en fait. Finalement, le double primat de la question sociale et sur la question territoriale, d'une part de l'insécurité économique sur la supposée insécurité culturelle de l'autre, est sans aucun doute l'une des grandes leçons du mouvement. Dans ces conditions, il faut un certain art du funambulisme intellectuel pour continuer à interpréter les gilets jaunes à l'aune de la question obsession géographique. Si les climato-sceptiques, les théories du complot ou le mythe du grand remplacement ont si peu d'audience en France, c'est le fruit d'une maturité collective des chercheurs, des citoyens, des médias et des institutions. Let's go! Oui! On est balèzes, les gens. Dans les sciences sociales et territoriales, il est temps de forger avec humilité, mais résolution et sans irésine, de nouvelles manières de penser et d'agir pour répondre aux immenses défis environnementaux, économiques, migratoires et sociaux au début du XXIe siècle. Let's go! Un article de Aurélien Delpirou. Non, c'est bien vrai. Voilà, et comme ça, voilà, nous, on est un peuple intelligent, les Français, on tombe pas dans ces conneries de débiles, là, de climato-sceptiques, théorie du complot, etc. Non, on est les boss, on arrête de lire des débiles, là, qui proposent des réflexions de nul à chier, et on commence à...